La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. Le chant du parti des bolcheviks dans la marche du monde, un siècle après leur triomphe en octobre 17, alors qu'ils prennent le pouvoir à Petrograd sous la direction de Lénine. Une victoire qui vient mettre un terme à une expérience unique dans l'histoire de la Russie, celle d'une première expérience démocratique initiée par le peuple quelques mois plus tôt, en février 17, en renversant le tsar Nicolas II. À la lumière d'un long processus révolutionnaire commencé bien avant l'année 17, je vous propose de découvrir pourquoi et comment le peuple russe s'est émancipé du joug tsariste en pleine Première Guerre mondiale. Mais attention, la guerre est le plus beau cadeau fait à la Révolution, avait dit Lénine. Et pour répondre aux nombreuses questions que suscite la révolution de 1917, l'une des révolutions les plus fascinantes de l'histoire du monde, avec la révolution française et aussi peut-être la révolution mexicaine, j'ai convié trois historiens. Emilia Kustova, maître de conférence en civilisation russe à l'université de Strasbourg. Bonjour Emilia.
Bonjour Valérie.
Alors est-ce que la Russie de Poutine commémore la révolution de 17 ?
Elle la commémore, mais contre son gré et avec beaucoup d'embarras. Cette commémoration est un véritable défi pour le gouvernement, qui ne peut pas se permettre de rester silencieux, puisque ça laisserait bien trop de place et d'espace à des acteurs différents, peut-être d'opposition, et donc qui se retrouve à commémorer ce qu'elle aborde, c'est-à-dire une révolte populaire, une contestation du pouvoir établi, un mouvement de rue. Donc, en soi, cette commémoration difficile mérite une réflexion et mérite qu'on en discute.
Alors Alain Blum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et démographe, directeur de recherche de l'INED et l'un des commissaires de l'exposition proposée par la BDIC et 1917 devient révolution. Et vous, vous êtes intéressé à la fascination qu'exerce la révolution russe sur le reste du monde.
Oui, tout à fait. Ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir à quel point la révolution russe, donc à partir de 17, très vite, dès 18-19, va devenir un peu un modèle qui va circuler selon les périodes dans les différentes parties du monde. Ça va être en Chine, ça va être en Afrique, ça va être en Amérique latine plus tard. Quelque chose qu'on appelle la révolution russe, mais qui est en fait très souvent une sorte d'image idéale ou d'un mythe ou différemment. Et cette circulation est faite à la fois d'admiration et parfois de rejet.
On vous retrouve tout à l'heure, Alain Blum. Nicolas Werth, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire, directeur de recherche à l'Institut d'histoire du temps présent, grand spécialiste de l'histoire de l'URSS et l'auteur du Que sais-je, les révolutions russes, dont nous allons offrir plusieurs exemplaires à nos auditeurs. Alors, qu'est-ce qui vous frappe le plus, je dirais, dans le mythe de cette révolution russe, dont la lecture a longtemps été réduite au fond à un clivage politique entre les socialistes, contre les libéraux?
Comme l'a dit Alain, c'est vrai que très rapidement, il y a eu ce mythe de la révolution. Mais surtout, je pense, ce qui est important de comprendre, c'est que justement, ce n'est pas seulement une révolution, ce sont des révolutions au pluriel. Pas seulement février et octobre, ça a été au fond une explosion de révolutions, à la fois des soldats, des ouvriers, des paysans, des nationalités, des peuples allogènes de l'Empire, et donc ça a été un formidable tumulte et qui n'a pas commencé en février et qui ne s'est pas arrêté en octobre, mais au fond qui a commencé bien avant avec le rôle important de la guerre et qui s'est prolongé au moins jusqu'à la fin de la guerre civile, sinon au-delà, c'est-à-dire au moins pendant 8 ans. Entre 1914 et 1922.
Alors Nicolas Werth, on l'a compris, cette année 17 ne tombe pas du ciel. Dans quelle Russie sommes-nous en ce début du XXe siècle, puisque le peuple est encore dominé par cette dynastie des Roumanov, ce qui finit par finalement être très différent, par exemple, de l'Europe centrale, de la France, etc.
Oui. Bon, on sait que la révolution de, enfin, les révolutions de 1917 ne sont qu'un chaînon important, mais il y a eu d'autres révolutions avant, notamment celle de 1905, 1906, voire jusqu'en 1907. Et donc, il y a le fait que ces événements révolutionnaires de 1917 s'inscrivent à la fois dans une continuité révolutionnaire qui a commencé au début du siècle, mais aussi et surtout sans doute dans cette crise majeure de l'Europe en tant que continent avec la Première Guerre mondiale et la crise des empires. Crise de l'Empire austro-hongrois, crise de l'Empire ottoman, crise de l'Empire russe. Et donc, on ne peut comprendre, et ça, il y a évidemment des travaux formidables. Je pense sur ce point, les choses ont été beaucoup renouvelées, notamment par toute une série de travaux de nos collègues anglo-saxons qui ont montré que pour comprendre 17, il faut l'inscrire dans un continuum, comme dit Peter Holquist, de crise et de guerre, au pluriel.
Alors, en ce qui concerne justement cette Première Guerre mondiale, vous insistez, Nicolas Werth, sur le rôle des soldats dans la mécanique révolutionnaire. Pourquoi ?
Eh bien, parce qu'au fond, si l'on prend les chiffres simplement, c'est quand même 14-15 millions d'hommes sous les drapeaux. Bon, il n'en reste plus malheureusement qu'une dizaine de millions parce que 5 millions ont été mis hors de combat, tués, prisonniers, blessés depuis août 14. Mais au fond, c'est une extraordinaire force que l'on peut comparer au bon, 1,5 million, 2 millions selon les données du prolétariat ouvrier des grandes villes. Et donc, les soldats jouent un rôle. Ces millions et millions d'hommes sous les armes. Et puis, au fond, il ne faut pas oublier que ces soldats sont aussi des paysans. Donc, vaut mieux parler de soldats paysans. Et ne serait-ce que pour prendre, au fond, les événements de la révolution de février à Pétrograd, s'il n'y avait pas eu la mutinerie des régiments de la garnison de Pétrograd, sans doute que la révolution de février n'aurait pas eu lieu, parce que au bout de 3-4 jours de manifestation ouvrière, les ouvriers étaient totalement découragés. C'est quand même eux qui ont fait basculer, au fond, le sort de ce qui était qu'une simple émeute en une révolution.
En février 17. Les paroles russes de l'hymne révolutionnaire chantées sur la musique de la Marseillaise. Pour évoquer avec vous, Ilia Koustova, la façon dont l'arrière va descendre dans la rue pendant que les soldats sont au front. Qu'est-ce qui se passe justement dans ces grandes manifestations de rue de février 17 ?
Ça commence avec une manifestation de femmes qui sortent entre autres pour célébrer le 8 mars. Et là, il faut peut-être préciser que quand on parle de la révolution de février ou d'octobre, on se réfère au calendrier julien qui est en cours à ce moment-là en Russie et qui a accumulé 13 jours de retard par rapport au calendrier grégorien utilisé en Europe et dans le monde. Donc, en réalité, tout commence en Russie le 23 février qui est déjà le 8 mars ailleurs à l'étranger. Donc les femmes sortent, elles sont très vite rejointes par leurs maris, par les ouvriers, mais aussi par les classes moyennes, par les étudiants, et puis 3 jours plus tard, par des soldats. Et c'est là effectivement que tout bascule et c'est à ce moment-là que les élites politiques à Petrograd, qu'il s'agisse des militants socialistes ou encore des députés de la Douma, C'est là qu'ils commencent à se concerter et commencent à agir, puisqu'il devient clair petit à petit que le mouvement est d'ampleur et qu'il faut faire quelque chose.
Alors à ce moment-là, Emilia Kostova, c'est quand même une très grande expérience sur laquelle on ne revient peut-être pas assez, une grande expérience de démocratie directe qui va être initiée à travers ces soviets qu'on peut traduire par le mot conseil.
Conseil, assemblée.
Voilà, donc des soviets, c'est pas des gens en réalité, hein, c'est le nom d'une assemblée de personnes.
Exactement. Et là, il est très important de rappeler que c'est une expérience qui a déjà été vécue une douzaine d'années plus tôt, au moment de la révolution de 1905. Dans une cinquantaine de villes russes, des soviets avaient été formés de façon complètement improvisée par des ouvriers qui étaient en grève. Et au départ, c'était des organisations qui étaient destinées à aider les ouvriers à porter leurs revendications au moment de grève générale et notamment aussi organiser une résistance face aux forces policières. Et au moment où la révolution commence à prendre de l'ampleur à Petrograd, cette expérience est présente et elle va être renouvelée. C'est ainsi que dès le 27 février, donc 4 jours après le début, des députés se réunissent, des députés qui viennent d'être désignés comme tels dans les usines. Donc ils se réunissent au palais de Tauride ensemble avec les militants des partis socialistes. Et c'est là que cette forme renaît. Et elle va prendre beaucoup d'importance puisque partout ailleurs, les villes, mais aussi les villages, et puis les régiments, les tranchées vont se doter de soviets.
Alors ils vont lancer un appel, hein, c'est l'appel du 27 février, pour se débarrasser complètement du vieux gouvernement et puis aussi pour essayer de mettre en œuvre une assemblée constituante sur la base d'un suffrage égal, secret et direct. Et ça, ça va prendre un temps fou.
En fait, il faudra quelques jours, quelques semaines pour que le principe du suffrage universel avec la participation des femmes soit acté et accepté. Mais effectivement, le projet de l'Assemblée constituante, c'est l'un des rares projets qui unit à peu près tout le monde à ce moment-là, en février. Et c'est, je dirais, c'est une sorte de rêve fondateur, projet fondateur de cette révolution de février. Et au moment où l'Assemblée constituante, enfin élue en novembre, donc après l'insurrection ou le coup d'État d'octobre, donc elle finira par se rassembler et commencer à fonctionner en janvier 18 à Petrograd. Là, elle sera dissoute par la force, par les bolcheviks, et c'est là que va se clore ce moment février commencé donc 11 mois avant.
Nicolas Vert, Petrograd, c'est Saint-Pétersbourg, pour que les auditeurs s'y retrouvent. Donc, pendant tout ce temps, justement, de mise en œuvre de ces élections, c'est assez fascinant. Les dirigeants politiques, eux, sont rentrés d'exil, donc en Russie. De quel œil voient-ils, justement, ces soviets ?
Les dirigeants socialistes en exil de toute tendance confondue, exil intérieur parce que certains rentrent de Sibérie, d'autres rentrent de l'étranger, ces soviets, ils les voient différemment, c'est-à-dire que seuls les bolcheviks, très tôt, demandent tout le pouvoir aux soviets.
C'est la fameuse formule.
Oui, tout le pouvoir aux soviets, mais bon, les soviets évoluent dans leur composition tout au cours de l'année. C'est-à-dire qu'au début, ils sont majoritairement, disons, socialistes modérés, et ils se bolchevisent au fur et à mesure d'une radicalisation des masses qui se fait tout au cours de l'année. Mais il y a cette démocratie des soviets qui, évidemment, est absolument fondamentale. Et c'est vrai que, enfin, la spécificité des bolcheviks, mais qui sont eux-mêmes divisés, et en particulier de Lénine, c'est de dire que il faut aller au pouvoir au nom des soviets, mais en même temps, Lénine refuse que le changement du pouvoir se fasse à l'issue du deuxième congrès des soviets qui est programmé pour le 25 octobre 1917.
À ce moment-là, justement, que représente Lénine au sein même des bolcheviks, Nicolas Vert?
Lénine est considéré évidemment comme le vieux, celui qui est quand même une autorité.
Mais on peut rappeler quel âge il a à l'époque d'ailleurs, tiens.
Donc il est né en 70, 47 ans. Bon, voilà, le vieux, c'est tout relatif. Mais bon, il a une autorité, c'est sûr. Mais en même temps, cette autorité n'est pas une autorité dictatoriale, puisque au fond, il y a des courants divers au sein du parti bolchevique et des gens s'opposent à Lénine, peuvent s'opposer, comme la fameuse décision de décider l'insurrection le 25 octobre, il y a deux dirigeants majeurs, Zinoviev et Kameniev, qui disent non. Ils sont deux sur 12 du comité central, mais en même temps, quand il y a cette fameuse réunion, le comité central a 21 membres, il y a 9 qui sont absents. Voilà, donc si vous voulez, les décisions se prennent à l'issue d'une discussion, et évidemment, ça a été une des choses importantes qu'ont montré des historiens, notamment Alexandre Rabinovitch, dont le grand classique est enfin traduit en français et enfin sorti, alors que la version anglaise est sortie il y a plus de 30 ans, de montrer que le parti n'est pas absolument monolithique, comme on l'a souvent essayé de le montrer.
Alain Blum, j'aimerais que l'on revienne sur cette Marseillaise avec ces paroles de l'hymne révolutionnaire russe. Il faut bien que nos auditeurs comprennent que ce n'est pas une version en russe de la Marseillaise. Et vous avez choisi de faire entendre cet hymne justement à la BDIC à l'occasion de l'exposition « Et 1917 devient révolution ».
Oui, tout à fait. En fait, il faut bien voir que les révolutionnaires, à l'époque, les révolutionnaires russes sont fascinés par la Révolution française. Il y a énormément de références. Et avant même la Révolution, il y a eu beaucoup de Marseillaises. La Marseillaise ouvrière, la Marseillaise paysanne. Il y a même, la Pravda publie une Marseillaise très ironique contre la bourgeoisie, qui serait au nom de la bourgeoisie. Donc c'est un chant qui est réutilisé en permanence comme le témoignage du chant révolutionnaire, sachant que Lénine n'aime pas la Marseillaise, en revanche. Et lui, il prendra l'international comme chant révolutionnaire. Mais entre février et octobre 17, et même au-delà, la Marseillaise est vraiment le chant qui rassemble, avec des paroles chaque fois différentes, qui sont soit des paroles ouvrières, soit des paroles paysannes.
Merci d'écouter La Marche du Monde. Nous nous interrogeons sur l'expérience démocratique unique constituée par la révolution de 1917, une révolution de soldats, de paysans et d'ouvriers. À qui appartient les révolutions? Nous nous posons la question avec nos invités Nicolas Werth, Emilia Kustova et Alain Blum dans quelques instants sur RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
C'est la suite de la marche du monde sur RFI. Nous revenons sur la révolution russe de 1917. Une année mythique, une année fascinante, une année pleine de promesses pour l'exercice de la démocratie directe par le peuple. Des assemblées, les soviets, fleurissent dans tout le pays, mais bientôt elles sont prises en main par les chefs bolcheviques. Et contre toute attente, Vladimir Ilitch Ulianov, dit Lénine, pourtant issu d'un parti minoritaire, sortira grandi du coup d'état d'octobre pour devenir la figure tutélaire d'un nouveau régime dit soviétique. Et nous retrouvons nos invités Nicolas Werth, Emilia Kustova et Alain Blum. Et merci Alain Blum de nous faire partager depuis le début de cette émission un répertoire musical qui est celui de la révolution russe. Et d'ailleurs, c'est une révolution également en chanson et en images. Je pense à l'hymne révolutionnaire sur la musique de la Marseillaise que nous avons écouté tout à l'heure, ou encore cet hymne de la Russie libre que nous écoutons. En deux mots, quelles sont les paroles de ces chansons et surtout, pour vous, qu'est-ce que ça traduit de ce processus révolutionnaire?
Les paroles, elles expriment l'euphorie justement face à la rupture avec le tsarisme, c'est-à-dire c'est la Russie libre. C'est la Russie libre de ses contraintes qui dominaient en fait le pays avant la chute du tsarisme. Donc c'est vraiment des paroles effectivement qui expriment un peu tout l'espoir qu'il peut y avoir dans le moment février.
Alors dans l'exposition que vous présentez à la BDIC, dont c'est également le centenaire, vous avez choisi de faire entendre des textes du grand écrivain russe Maxime Gorki, déjà mondialement connu en 1917. Alors Gorki se passionne pour le genre humain, on le sait à travers sa littérature. Et il est également un chroniqueur de la Révolution dans le journal marxiste La Vie Nouvelle. Qu'est-ce qui le frappe, lui qui est internationaliste et pacifiste? Et je vous pose la question à tous les trois. Emilia Kustova.
Alors, ce journal, La Vie Nouvelle, commence à sortir mi-avril, si je ne me trompe pas, le premier numéro est daté du 18 avril, c'est-à-dire le 1er mai 1917, calendrier européen, calendrier julien. Donc, on y retrouve la question cruciale, centrale, qui est celle de la guerre et de la paix. Et on comprend tout à fait la démarche de Gorki, qui est extrêmement actif au sein de l'intelligentsia russe et au sein de l'intelligentsia de Petrograd, puisqu'il participe à toutes les commissions artistiques, etc. Et puis il lance ce journal qui se positionne comme un journal pacifiste, qui prône la paix immédiate, paix blanche, paix sans annexion ni contribution.
Nicolas Werth, Gorki est aussi un contemporain de cette première révolution de 1905, dont vous avez souligné l'importance dans ce processus des multiples révolutions russes. Comment accueille-t-il 17, a priori?
Il l'accueille évidemment avec un grand espoir, mais, et c'est vrai que ses articles sont absolument passionnants, et on a eu beaucoup de chance que déjà dans les années 70, ils aient été rassemblés dans un livre paru à Lausanne sous le titre de « Pensée intempestive ». Au fond, le thème qui domine, c'est à la fois l'espoir, mais aussi l'effroi devant la violence qui va se déchaîner. Non pas une violence politique forcément, mais la violence de la foule, la violence de la soldatesque. Cette violence l'effraie. Cette violence l'effraie. Et encore une fois, j'insiste bien, c'est pas la violence des bolcheviks ou la violence des partis. Non, c'est la violence au fond de la foule, d'une foule brutalisée par la guerre, bien sûr. Et bien sûr, la sous-entendu, la violence quand même du monde paysan, hein, qui l'effraie, lui qui est un urbain.
Les mots de Maxime Gorki dans La Marche du Monde. «
Maxime Gorki, éditorial du 17 janvier 1918. Tout ce qui renferme en soi cruauté et folie trouvera toujours accès à la sensibilité des ignares et des sauvages. Récemment, le marin Yelesniakov, traduisant dans la langue banale de l'homme de la rue les discours féroces de ses chefs, disait que pour le bien du peuple russe, on peut tuer même 1 million de personnes. Je ne considère pas cette déclaration comme de la vantardise, et bien que je ne reconnaisse pas de conditions qui puissent justifier les assassinats en masse, je pense que l'on serait capable de massacrer 1 million de citoyens libres dans notre pays. L'extermination massive de tous les opposants est un vieux procédé éprouvé de la politique intérieure des gouvernements russes. D'Ivan le Terrible à Nicolas II, tous nos chefs politiques ont usé librement et largement de ce procédé pratique et simple pour combattre la sédition. Pourquoi Vladimir Lénine renoncerait-il à un procédé aussi simpliste ? Non seulement il n'y renonce pas, mais il annonce bien franchement qu'il ne reculera devant rien pour exterminer les ennemis. Mais je pense que de telles déclarations nous apporteront une longue et cruelle lutte de tous les démocrates et du meilleur de la classe ouvrière contre cette anarchie zoologique que les dirigeants du Smolny entretiennent si activement. Voilà la menace que font peser sur la Russie les traductions simplistes des slogans anarcho-communistes dans la langue des boulots du pays natal.
La violence sous les yeux et sous la plume de Maxime Gorki. Alain Blum.
Oui, c'est assez fascinant ce texte. Bon, il est de janvier 18. En fait, il faut bien voir qu'il y a une grande évolution justement de Nathan Genzer, en particulier entre février et juillet 17 déjà d'ailleurs, et cette peur de la violence. Mais ce qui est fascinant quand on écoute ça, c'est que il faut bien voir que Gorki ensuite sera un soutien du stalinisme, et quelque part, il y a un côté à la fois prémonitoire et complètement paradoxal dans ce texte-là. Quand il dit qu'on peut tuer les opposants, lui va soutenir finalement Staline qui tuera ses opposants. Mais là, on voit qu'il est totalement effrayé, effectivement, par ce déchaînement de violence et par ce déchaînement de violence non contrôlé. Et il pense que les bolcheviks, à ce moment-là, sont initiateurs, en partie, de ces violences.
Et vous, Nicolas Werth, vous qui êtes l'auteur du Que sais-je sur les révolutions russes, que pouvez-vous nous dire sur ces violences? Parce que si la révolution russe est en réalité un long processus et une succession de révolutions, et vous insistez systématiquement sur cette mécanique de l'histoire, qu'est-ce qui va quand même caractériser la fameuse révolution d'octobre 17, je dirais par contraste avec cet élan de démocratie participative que vous avez rappelé tout à l'heure en ce qui concernait février 17?
Évidemment, février 17, révolution spontanée, révolution d'octobre, insurrection organisée. Donc ça, c'est bien sûr un contraste réel. Mais derrière ceci, il y a évidemment la question fondamentale de l'instrumentalisation de la violence. Parce que, si vous voulez, ce n'est pas seulement l'état-major bolchevique qui décrète la violence existe, elle est simplement instrumentalisée dans un but spécifique qui va ensuite se déployer dans les semaines et les mois qui vont suivre la prise du pouvoir par les bolcheviks en octobre 17.
Nicolas Werth, est-ce qu'à ce moment-là, la guerre est toujours un cadeau pour Lénine ?
Ben, la guerre, elle est omniprésente.
La Première Guerre mondiale.
La Première Guerre, et évidemment, on sait, une des premières mesures prises par les bolcheviks dès leur venue au pouvoir, c'est bon, d'abord d'acter la saisie par les paysans de la terre, c'est le décret sur la terre, mais aussi de décréter à tout prix une paix auquel aspire la majorité de la population, quel qu'en soit le prix, c'est-à-dire évidemment perdre du terrain pour gagner du temps, comme le disaient les bolcheviks, c'est-à-dire qu'il faut absolument signer la paix pour laisser une chance au mouvement révolutionnaire, non seulement à l'échelle de la Russie, mais ils étaient persuadés, les bolcheviks, que la révolution était imminente dans le reste de l'Europe, pour laisser une chance à la révolution mondiale d'éclater en 1918.
Alors, Nicolas Werth, vous rappelez la distribution des terres aux paysans, c'est d'ailleurs ce que les paysans réclamaient. On n'en est pas encore à la collectivisation des terres.
Non, absolument pas. D'ailleurs, les bolcheviks reprennent pour l'essentiel le programme des socialistes révolutionnaires que ceux-ci, dans leur majorité, n'ont pas appliqué au cours de l'année 17, puisqu'ils ont toujours retardé cette redistribution des terres. Voilà, et donc Lénine a évidemment l'intelligence politique de voler en quelque sorte aux socialistes révolutionnaires leur programme et de proposer que les terres, que les paysans ont commencé à s'approprier déjà depuis l'automne, soient remises au comité agraire pour redistribution.
Justement, Emilia Kustova, partout en Russie, hein, des assemblées, donc des soviets, s'étaient constituées depuis février 17. Des élections ont été organisées pendant plusieurs mois pour créer une grande assemblée. Et puis, les bolcheviks mettent un coup d'arrêt parce que cette grande assemblée démocratique, au fond, va à peine se réunir une première fois. Pourquoi?
Je pense que la question surtout, c'est pourquoi ont-ils quand même organisé les élections? La cohésion autour de ce projet était telle qu'ils maintiennent les élections qui se tiennent en novembre 17. Et par ailleurs, ils espèrent très probablement de sortir gagnants. Puisque à ce moment-là, à l'automne 17, ils sont populaires. Ils deviennent de plus en plus populaires, justement avec ces décrets qu'ils viennent de signer, la redistribution des terres, la paix immédiate, etc. Et donc, ils laissent les élections se dérouler. Or, ils ne gagnent pas ces élections. Et ce sont les socialistes révolutionnaires qui dominent de loin. Et à ce moment-là, les bolcheviks commencent à retarder de plus en plus la réunion de l'Assemblée. Mais malgré tout, l'Assemblée se réunit le 5 janvier 1918 à Petrograd et elle ne se déroule que pendant moins de 24 heures, puisqu'ensuite elle est dissoute. Tout simplement, les députés, quand ils reviennent, ils trouvent le palais de Tauride fermé.
Nicolas Werth, dans la vision de Lénine, s'il faut en passer par la fraternisation avec les Allemands, est-ce qu'il faut aussi en passer par la guerre civile? Ou est-ce que la guerre civile est une conséquence de cette situation chaotique que vous décrivez?
Ça, c'est une question assez complexe, mais disons pour simplifier, au fond, Lénine, depuis 1914, considère que, au fond, la guerre civile est la continuation et l'ultime conséquence de la lutte des classes. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut arriver, je ne dis pas qu'il doit arriver, mais enfin, donc, on est prêt à cette guerre civile.
Je vous propose de retrouver l'écrivain Maxime Gorki. Il est l'un des grands témoins de cette révolution. Et dans son journal, La Vie Nouvelle, où il chronique, il a choisi cette fois de publier la lettre d'un paysan.
Le 3 avril, des gardes rouges, 300 environ, sont arrivés à Baska. Ils ont pillé tous les propriétaires aisés, c'est-à-dire qu'ils ont prélevé une contribution de 1000 roubles à l'un, de 2 à 6000 aux autres. En tout, ils ont ramassé 85 350 roubles dans notre village et sont partis avec. En outre, ils ont volé nombre de biens chez tous les habitants, du pain, de la farine, des vêtements, etc. Et on ne peut pas faire le compte de tout cela. Ils ont même pris un étalon à Serge Timofeevitch, mais ils n'ont pas pu s'en servir car à peine était-il arrivé à Tolstovka qu'il est mort, près de l'église. Et si vous saviez comme ils ont fouetté les gens, c'est même dur à décrire. Et ils ont fouetté si fort que le seul fait de s'en souvenir vous fait dresser les cheveux sur la tête. C'est vraiment épouvantable. Tous les habitants de Baska ont passé ces 2 jours dans une telle terreur que je n'ai pas la force de vous décrire toutes ces horreurs. Nous avons tous eu l'impression qu'il est plus facile d'endurer les souffrances de l'enfer que les tortures de ces bandits. Il n'y a pas d'autres nouvelles dans notre village. Mais à Baranovka, Boldasievo et Slavkino, après le départ de la garde rouge, suivant l'exemple de ces bandits, les plus pauvres se sont mis à voler leurs concitoyens aisés. Ils font même des raids dans les villages voisins à la nuit. En un mot, la vie devient insupportable ici. Bon, au revoir. On attend votre visite. Cordialement à vous.
Alain Blum, c'est un témoignage que vous avez enregistré pour l'exposition « Et 1917 devient révolution » à la BDIC. On entend bien hein, ce crescendo dans la violence inhérente à ce début de XXe siècle, brutalisé, la Première Guerre mondiale, la guerre civile, dans ce récit, cette fois écrit par un paysan, et Gorki publie dans le journal.
Oui, tout à fait, c'est vraiment... on ne peut pas effectivement isoler la violence de la révolution, de la violence de la Première Guerre mondiale d'abord, et ensuite la guerre civile va débuter début 18 pratiquement, mi-18 et va être d'une extrême violence. Elle va prolonger cette Première Guerre mondiale, elle va être très multiple, c'est-à-dire c'est une guerre civile mais c'est aussi des guerres nationales puisque c'est des guerres qui vont opposer des mouvements d'indépendance ukrainiens par exemple aux bolcheviks ukrainiens et russes qui vont chercher à reprendre le pouvoir. Il va y avoir une explosion des indépendances à ce moment-là, et du coup cette guerre civile ce sont aussi justement des guerres d'explosion d'un empire. Et ça rajoute une couche à la violence. Là, il parle d'une violence paysanne. Les paysans ne vont pas attendre d'ailleurs la loi des bolcheviks sur les terres pour prendre les terres, c'est de ça qu'il parle. Mais aussi, au-delà des violences paysannes, c'est des violences très très multiples dans toutes les marges de l'empire qui se développent.
Avec des déplacements de populations extrêmement importants, des familles entières, notamment de Russes blancs. Bon, il y a tout un code couleur, j'allais dire, hein, de cette révolution. Là, on parle de ceux qui sont issus de la noblesse. On rappelle qu'il y a eu pendant des dizaines et des dizaines d'années cette dynastie des Roumanov au pouvoir, une sorte de Russie immuable. Donc on a ces familles de Russes blancs qui sont exilés. Et pour en témoigner, vous avez choisi d'enregistrer des lettres écrites par 10 enfants à qui on avait justement demandé de raconter leur exil. Je vous propose d'écouter la lettre de Kir. Il est de Kiev.
Kir, garçon de Kiev, raconte. L'année de la Révolution, je m'en souviens plutôt vaguement. À Kiev, où nous habitions, les premiers événements ne se sont pas fait sentir tout de suite. Pendant longtemps, le visage de la ville resta le même, sauf que la police avait disparu. Les camions chargés de soldats armés sillonnaient bruyamment les rues. La vie s'écoula comme avant jusqu'à notre départ à la campagne pour l'été. C'était la fin mai. À la campagne, l'atmosphère était tout autre. Vu que la route de Jytomyr se trouvait tout près, les foules de déserteurs traversaient notre village, leur propagande se faisait fortement sentir. À vrai dire, nos relations avec les paysans n'avaient pas empiré, mais on ressentait une influence sourde, diffuse, qui se répandait partout. Elle s'exprimait surtout dans les regards des paysans qui venaient pour une raison ou pour une autre. De temps en temps, éclataient des incidents commis par des bandes de jeunes voyous du village. C'était toujours provoqué par des jeunes venus d'ailleurs, d'allure suspecte. À plusieurs reprises, ces bandes sont venues chez nous, ont pénétré dans le jardin. Au lieu de d'étaler comme avant, lorsqu'on les approchait, ils exigeaient avec arrogance des pommes du peuple. Début septembre, nous sommes revenus à la maison. Au printemps 1918, les bolcheviks sont arrivés à Kiev par le Dniepr. Les Ukrainiens ont assuré les habitants que la ville allait se défendre jusqu'à ses dernières forces, que les bolcheviks ne la prendraient jamais. En fait, tout s'est passé autrement.
Nicolas Vert, c'est important de conjuguer les témoignages avec vos travaux scientifiques sur l'archive, hein, sur l'archive écrite.
Oui, oui, c'est formidable que justement il y ait pour l'exposition, bon, évidemment, autant de témoignages, de lettres, de documents différents, et évidemment que il faut mettre en dialogue la voix des simples témoins, citoyens, et puis les archives qui, après tout, sont le plus souvent des archives d'institutions, des archives de l'État, des archives institutionnelles.
Et c'est ce que vous proposez également avec votre dernier ouvrage, qui est une formidable anthologie au fond du goulag, puisque vous croisez vos travaux, vos documents d'archives que vous avez compulsés depuis des années, avec un recueil très très important de témoignages. Est-ce que Nicolas Vert, dans cette violence multiple, hein, dans ce processus révolutionnaire
russe hein, qui va faire émerger un nouveau monde, hein, ce monde soviétique. Est-ce qu'il y a aussi déjà les prémices de ce qui va devenir ce système concentrationnaire du goulag et du travail forcé? Est-ce que vous y voyez déjà une genèse du goulag?
Oui, ça c'est une question complexe qu'on peut pas résoudre en 2 minutes parce que des livres voilà ont été écrits dessus. Le goulag n'est pas sorti, le système du travail forcé oui. de masse tel qu'il s'est constitué à partir de la fin des années 20 n'est pas sorti tout armé, tout prêt d'octobre 17. Il y a eu toutes sortes d'étapes, il y a eu des camps dès l'été 1918, mais c'était plutôt des camps d'internement, c'était pas des camps de travail forcé. Enfin bref, il y a toute une histoire, mais ce que je voudrais insister, oui. c'est qu'il n'y a pas une linéarité parfaite. Il y a un laboratoire du goulag qui se passe sur les îles Solovki, sur ce premier camp, mais plutôt à partir du début des années 20, etc. Donc c'est une trajectoire assez complexe.
Et en 1922, naît l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Oui, bien sûr. Donc encore une fois, il y a la période de la guerre civile, des guerres civiles, et puis ensuite il y a la NEP, et ensuite par la fermeture d'alternatives possibles, on va déboucher sur le stalinisme. Mais je pense encore une fois qu'il y avait des voies alternatives qui se sont fermées petit à petit, et il y avait toutes sortes d'alternatives possibles, voilà.
Et puis Alain Blum, aussi violente soit-elle, cette révolution a complètement transformé le statut des peuples de Russie, puisque vous l'avez dit, on est dans un système totalement archaïque, féodal et séculaire. Hein. Donc il y a bien une modernisation, aussi forcée soit-elle, qui bénéficie aussi et qui fait que cette révolution russe est absolument fascinante, finalement pour tous les peuples qui vont vouloir sortir d'un joug, qu'ils soient là impérial ou encore colonial, et c'est une question qui vous intéresse et qui va traverser aussi l'exposition que vous présentez à la BDIC.
Ben, tout à fait, c'est-à-dire que la révolution russe est vue avant tout quelques années plus tard, mais très rapidement finalement, comme la prise de pouvoir des dominés sur les dominants. Et les bolcheviks vont beaucoup utiliser ça et vont très vite essayer de mettre en avant cette indépendance des peuples, qu'ils le casseront d'ailleurs assez rapidement ensuite, mais malgré tout, dès les premières années, il y a une volonté de mettre en avant les peuples, ils développent des politiques d'affirmative action, pour prendre un terme contemporain, vis-à-vis des différents peuples, ils donnent des formes d'autonomie, et ils vont réunir des congrès assez rapidement, le fameux congrès des peuples d'Orient à Bakou en 1920, qui sera un congrès qui va rassembler justement les peuples d'Orient pour essayer de leur donner un esprit révolutionnaire, c'est proche du Comintern. Les partis communistes européens, le Parti communiste français par exemple, va créer une union intercoloniale. Donc en fait, ce qui reste de la révolution dans ces idées qui se répandent, c'est avant tout le renversement d'un pouvoir. Le reste, finalement, est relativement peu présent et c'est assez fondamental dans cette diffusion de l'idée révolutionnaire dans les empires coloniaux.
Alors, il va être temps maintenant de conclure. J'ai une petite dernière question. J'ai envie de dire, et les femmes dans tout ça, Emilia Kostova?
Les femmes, elles ont commencé le travail, c'est souvent le cas. Mais ensuite, j'ai l'impression que finalement, leur place dans la révolution russe en 17 est très difficile à saisir. Elles ne constituent pas un groupe, une catégorie facilement identifiable, comme par exemple les soldats. Et puis, elles ne sont pas armées. Et au fur et à mesure que la violence et la force vont prendre de plus en plus de place, je pense que les femmes vont finalement se retirer ou se mettre à l'ombre, ce qui ne les empêchera pas, pour certaines, de vivre de façon très forte l'émancipation offerte par la révolution, ou ça ne va pas empêcher les autres à s'engager dans la révolution.
Je vois Nicolas Vert et Alain Blum qui semblent être d'accord avec vous.
Non, moi, juste, je voudrais dire que chez les bolcheviks, quand même, la lutte principale, c'est la lutte des classes. Et donc, la question des femmes, elle est un peu secondaires chez eux, même s'ils vont promouvoir ça. Et ça, il ne faut pas l'oublier, de la même manière qu'ils vont avoir tendance, pour parler des combats nationaux, de privilégier la lutte des classes sur les luttes nationales, ce qui va créer beaucoup de contradictions et de malentendus entre les mouvements anticoloniaux et l'Union soviétique dans les années qui suivront.
Merci à tous les trois. Alain Blum, votre expo à la BDIC et 1917 devient révolution, c'est jusqu'au 18 février. Emilia Kostova, votre livre, Le spectacle de la révolution, c'est aux éditions Antipode. Et en ce qui vous concerne, Nicolas Werth, votre que sais-je, Les révolutions russes, nous avons la chance de pouvoir l'offrir en plusieurs exemplaires à nos auditeurs. Alors un grand merci aux éditions des presses universitaires de France. Et pour cela, chers auditeurs, il vous suffit de nous écrire à marche.monde@rfi.fr et bien sûr de nous donnez votre adresse et votre nom. 1917, à qui appartient la révolution russe, c'était une émission réalisée par Elliot Bourrel. Retrouvez-nous sur RFI.fr et sur Facebook. Réagissez comme d'habitude, podcastez cette émission, c'est la vôtre.